Le président Faustin Archange Touadéra a finalement prêté serment le 30 mars dernier. 4 jours déjà consommés pour le nouveau quinquennat du chef de l'État. Nous allons dans un instant avec nos invités parler des défis qui attendent le président réélu. Évidemment, nous allons y revenir sur quelques extraits de son discours axé sur le plan d'action qui guidera les 5 années d'exercice de son pouvoir. De la rupture à la ligne rouge, Faustin Archange Touadéra met désormais la barre très haut. Aura-t-il les mains libres pour la mise en œuvre de son programme ? La rupture prônée dans le premier quinquennat par M. Touadéra a-t-elle été appliquée ou consommée ? De la rupture à la ligne rouge, comment cela va se faire ? Et pour en débattre, je reçois autour de cette table Christian Gazambetti. Bonjour.
Bonjour Armando.
Vous êtes porte-parole de l'opposant à l'essai Georges Deleguillé, le président de l'URCA. Aristide Blignan-Reboas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat à la dernière présidentielle du 27 décembre dernier, président du Parti chrétien-démocrate et aussi écrivain. Le Thierry Patrick Akolosa, bonjour.
Bonjour.
Rapporteur général de la plateforme Béoko qui soutient les actions du pouvoir. Vous êtes aussi ancien rapporteur général du Conseil national de la transition. Je suis Armando Nguindi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout premier débat politique de Radio Ndiki Luka du mois d'avril 2021.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndiki Luka.
Voilà, et c'est le débat politique, le débat toujours, comme son nom l'indique, il est contradictoire. Première question, monsieur Akolosa, que vous inspire hein, le second quinquennat de monsieur Touadéra?
Je vous remercie, Armando, c'est un quinquennat d'espoir, un quinquennat qui est rassurant parce que ce quinquennat ne se déroulera pas dans les mêmes conditions que le premier quinquennat, parce que vous pouvez le constater avec moi, le premier quinquennat était dans une situation de crise aiguë. Aujourd'hui, on peut se dire aisément que les conditions sécuritaires ne sont plus les mêmes. Et donc, cela donne beaucoup d'opportunités au président de la République et le gouvernement qui sera mis en place de mener à bien les grands chantiers que le président a tracés dans son discours à l'occasion de son investiture.
Voilà, même question à vous, monsieur Gazambetti. L'URCA ne s'est pas présenté à l'investiture du chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire que le chef de file de l'opposition, c'est Georges Deleguillé, a boycotté la cérémonie de son ancien challenger?
Écoutez, le président Alice Georges Deleguillé est un homme politique qui est cohérent. À partir du moment où il a été candidat à l'élection présidentielle, pendant laquelle il est sorti deuxième après le président élu Faustin Archange Touadéra, et qu'il n'a pas reconnu la légitimité du président de la République, le fait qu'il ne se présente pas à cette investiture est juste cohérent avec sa position politique qu'il a prise. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça, c'est un. Maintenant, par rapport au deuxième quinquennat du président de la République, Faustin Archange Touadéra, ce que je peux dire, pour moi, c'est tout à fait normal que ce second quinquennat doit être différent du premier. Parce que, je le disais naguère, à partir du moment où un président de la République en exercice et dans son premier quinquennat, même s'il œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la population, quelque part dans son cerveau, il œuvre également pour sa réélection. Aujourd'hui, le président Faustin Archange Touadéra est réélu. À partir du moment où il est réélu, notre Constitution dit qu'il y a 2 mandats. Donc, c'est son dernier mandat. À partir de ce moment, il n'œuvre plus pour sa réélection, mais il devrait œuvrer pour entrer dans l'histoire. Donc, forcément, le second mandat devra être différent du premier, parce que le président Touadéra devrait être dans une logique de laisser une trace positive et également de laisser un héritage aux générations futures afin que son nom rentre dans l'histoire. Donc pour moi, normalement, le second mandat, si on va dans toute logique, doit être différent du premier.
Et comment cela va être différent, comme vous l'avez dit, on y reviendra avec vous hein, pour en savoir davantage. Monsieur Aristide Blignan-Reboas, vous étiez présent lors de la prestation du serment du chef de l'État, hein, votre ancien challenger. Je rappelle que vous étiez candidat à la présidentielle hein, du 27 décembre dernier. Vous jouez au fair play, c'est ça?
Merci beaucoup, monsieur Armando. Oui. Je pense que monsieur Gazambetti a parlé de la cohérence, effectivement. Je suis républicain. J'ai soutenu le processus hein, démocratique. J'ai reconnu la victoire du président, malgré les difficultés ci et là. Et donc, en toute cohérence, je ne pouvais qu'aller jusqu'au bout. Donc j'ai été pris, mais je me suis forcé pour être là, afin d'honorer, parce que en tant que parti chrétien démocrate, pour être applaudi, un jour il faut savoir applaudir les autres. Maintenant, je voudrais tout simplement remercier les deux débatteurs, parce que déjà dans leur introduction, je me retrouve. Le nouveau quinquennat devrait nous permettre d'avancer en tirant la leçon du passé. La leçon du passé, le premier quinquennat a été marqué par des implosions internes au parti du président Touadéra. Ça, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que le président Touadéra a été élu avec une coalition de beaucoup de partis. Et donc, il était question pour eux d'abord, d'organiser un premier primaire au niveau, au sein de cette première coalition, pour désigner un seul candidat afin d'affronter l'opposant Anissé Georges Dolé-Guélé pour les élections du président de notre Parlement. Et donc, il y a eu un manque de rigueur à ce niveau. Donc, c'est-à-dire que dans leur majorité, il y avait M. Mekassoua, il y avait M. Dolé-Guélé, Ziguélé, etc. Donc, ils se sont affrontés, ils se sont fragilisés avant d'aller là-bas. Et donc, du coup, ils n'avaient pas une majorité sûre. Et donc, pour amorcer le deuxième quinquennat, je pense que je vois les spectres de cette ancienne division qui existe, parce que dans la manière de désigner les candidats de MCU, ils ont commis le même péché à l'époque que le KNK, qui avait aussi des candidats KNK, KNK pur et KNK indépendant. Et cela a créé une autofragilisation au niveau même du parti. Et donc là, aujourd'hui, vous voyez bien que le candidat indépendant, Fatis, s'en sort même mieux que deux fois le candidat du MCU. Et donc, pour tirer d'abord la leçon, ils devraient d'abord se mettre ensemble, lisser leurs différences, présenter un seul candidat pour aller au perchoir, avoir une majorité qui serait le garantie du président, qui va être utilisé comme le levier nécessaire afin de soutenir le programme du président pour que le discours soit, c'est-à-dire qu'on joigne l'acte à la parole, c'est-à-dire que une majorité sûre, pas des majorités vacillantes, où à chaque fois quand on emporte des projets de loi, il faut chercher l'enveloppe, etc. Non, voilà, nous voulons que des députés et non des débutants. Voilà. Donc c'est important.
Vous avez épuisé votre temps, je reste avec vous pour une nouvelle question. Si ça vous va bien, vous avez parlé de tirer la leçon du passé. Mais quand le président a parlé de la rupture, de la rupture, est-ce que pour son premier quinquennat, il a parlé de la rupture, est-ce que la rupture, selon vous, a été consommée, a été-t-elle vraiment mise au point?
Le président Touadéra a parlé de la rupture. Je connais bien son discours par cœur, puisque déjà j'étais l'invité de Ndekeluka le jour de l'investiture de 2016. Mais entre-temps, il avait bien commencé. Il faut dire les choses clairement. Il avait bien commencé, mais après il a été rattrapé par les démons de division, c'est-à-dire liés à la prise en considération des revendications, des rebelles qui naturellement ont fragilisé la dynamique. Parce qu'en fait, la rupture c'est quoi ? La rupture obéit par exemple à certains paramètres conjugués. Par exemple, quand tu veux lutter contre la corruption, c'est quand même important. Tu ne peux pas quand même prendre, par exemple, Pablo Escobar et le mettre à la tête d'une commission de lutte contre la drogue. Et donc, les rebelles, effectivement, qui n'avaient pas d'aptitude intellectuelle, morale, effectivement, se sont introduits pour perturber le jeu du président Touadéra durablement. Et donc, nous avons noté, moi, à titre personnel, quelques avancées. Sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, etc. Mais il faudrait garder cette dynamique et continuer. Parce que le premier facteur humain dans tous les réformes, c'est le facteur humain. Dans le facteur humain, il y a l'éthique, la morale, la compétence. Donc, faut pas se perdre de vue. Mais quand, par exemple, c'est important. Quand, par exemple, vous voulez, par exemple, lutter contre l'insécurité, vous voulez nommer quelqu'un qui a une aptitude morale, et vous savez bien que c'est un tueur, vous savez bien que c'est un délinquant, vous savez bien que c'est un rebelle, mais vous l'amenez, c'est-à-dire l'accord qui permet de l'amener prive le président de son pouvoir, par exemple, d'enquêter, d'avoir les garanties nécessaires avant de d'amorcer la question de développement. Je pense que la leçon reste à tirer.
La leçon reste à tirer, monsieur Christian Gazambetti, sur le point de la rupture dont le président en a mentionné dans son premier quinquennat. Nous amorçons déjà le second quinquennat avec 4-5 jours aujourd'hui. Est-ce que cela a été consommé selon vous?
Vous savez, il est de notoriété publique que je suis dans l'opposition. Et je fais partie des personnes qui sont des opposants assez virulents envers la politique du président de la République. Je ne veux pas faire ici un bilan des 5 dernières années. Mais parce que c'est connu de tous ce que je pense de ce bilan. Mais pour répondre à votre question, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la rupture en matière de lutte contre la corruption n'a pas été consommée. Pour moi, c'est encore un processus qui va devoir s'exécuter pendant ce second mandat. Parce que, voyez-vous, lorsque un président de la République prend fonction et qu'il annonce une rupture, par exemple en lutte contre la corruption, le peuple attend des signaux forts. Et laissez-moi dire par exemple que pendant le premier quinquennat du président de la République, nous n'avons vu à aucun moment une personnalité qui soit par exemple dans le gouvernement ou dans de hautes responsabilités de la République être jugée pour corruption. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu des cas de corruption, pas eu des cas de détournement. Il y en a eu, nous n'allons pas citer de noms ici, mais nous n'avons pas eu de signaux forts en voyant qu'une grande personnalité aille devant la justice ou bien soit écroué par la justice. Et ça, ce sont des choses que je pense qu'il faut corriger. J'ai la ferme conviction que si il y a des signaux qui sont envoyés comme ça, le peuple centrafricain regagnera de plus en plus confiance dans les institutions. Donc, pour répondre brièvement à cette question, est-ce que la lutte contre la corruption, est-ce que la rupture a été consommée? Ma réponse est non. C'est un processus qui doit continuer à s'exécuter pendant ce second quinquennat. Et j'espère, parce que c'est dans l'intérêt de tous les Centrafricains, que cette rupture soit finalement consommée pendant ce second quinquennat.
D'accord, mais on va revenir encore, comme vous l'avez déjà dit, monsieur Thierry Akolesa, vous me suivez?
Je vous suis.
Merci. Sur ce même point, avec la rupture prônée par le chef de l'État dans son premier quinquennat, quelles sont les avancées que vous avez remarquées vous-même?
Bien, mais avant de répondre à cette question, je vais revenir sur deux choses.
Oui, rapidement.
Je voudrais rassurer mon co-débatteur, M. Rebois, que l'Assemblée nationale, du moins la majorité qui existait, c'était une majorité fluctuante, ne sera pas la même majorité. C'est vrai qu'au sein de cette famille politique, il y a ce qui existe dans toutes les familles, hein, il y a des petits problèmes. Mais je crois aujourd'hui, la situation n'est pas la même comme le mandat parlementaire qui est en train de s'achever. Parce qu'aujourd'hui, il y a une machine politique qui est la plateforme Bayako, où toutes les questions sont réglées dans cette structure-là, parce qu'aujourd'hui, il y a un accord politique qui est signé. Et cet accord-là met en place une certaine discipline. Je ne pense pas que cette assemblée et cette majorité qui se dégagera ne va pas budgétiser les votes. Et là, nous luttons contre ça. Je préfère le dire, mais d'une manière, on est dans toutes les réunions que nous avons eues au niveau de la plateforme BOCO. Nous avons dit, après l'installation de l'Assemblée nationale, il y aura une grande réunion. Il n'y aura plus question de donner des enveloppes aux députés parce que ça déshonore notre Assemblée nationale. Et je crois même les plus hautes autorités du pays sont conscients de cette situation-là. Ça ne va plus se répéter.
Mais déjà, au sein de cette plateforme Bioco, il y a des clauses entre vous, les partis politiques et le parti du MCU, qui ont dit clairement que dès que votre parti ou bien un parti allié est sorti premier, c'est lui du MCU, par exemple, qui seconde l'autre de la plateforme, par exemple, doit se retirer. Mais est-ce que cela a été fait sur le terrain? On ne pense pas.
Objectivement, ça n'a pas été fait parce qu'on a eu des discussions en notre sein. On voulait donner, on a mis un petit frein par rapport aux dispositions de l'article 8 du règlement intérieur de notre accord. C'est pour cela que vous avez vu, les deux qui sont arrivés en tête sont allés aux élections. Mais ça, c'est des discussions en cours encore. Mais la question de la majorité parlementaire va se dégager et il n'y aura plus de crise. Même si les crises ne manquent pas dans...
Mais parce que vous savez, vous êtes plus d'une trentaine des partis politiques au sein de cette plateforme. Est-ce que cela, avec toutes les clauses-là, cela ne va pas fragiliser l'exercice du second quinquennat du président de la République? Parce que certainement, vous n'avez pas milité pour rien.
Non, ça va fragiliser le quelqu'un du président comment? Puisque je vous disais ici que la plateforme fonctionne, la majorité présidentielle fonctionne sur la base d'un texte. À l'époque, il n'y en avait pas. Nous avons pris soin des précautions juridiques pour mettre en place un document. Et nous devons respecter ces documents. Maintenant, deuxièmement, le quinquennat, le nouveau quinquennat, j'avais dit d'entrée de jeu que ce quinquennat-là n'a pas le même environnement que le précédent. Et j'ai aimé la manière avec laquelle M. Reboise l'a dit. Le président était en face d'une situation où il y a des actions ou des actes qu'il ne pouvait pas poser. Mais je vous rappelle que, parce que les velléités étaient telles que si le président s'hasardait à poser un tel acte, ça risque d'avoir des répercussions. C'est pour cela qu'il est allé même au-delà de la Constitution pour nommer ceux qui ont pris les armes dans le gouvernement, dans l'esprit de l'accord de paix de Khartoum. Parce que la paix n'a pas de prix. Mais maintenant, voyez-vous, avant le début, le commencement de ce deuxième quinquennat, mais le chef d'État a annoncé que c'est terminé. Parce que dans le gouvernement, beaucoup de ceux-là qui appartenaient à des familles appartenant à des groupes rebelles ont été remerciés du gouvernement. C'est déjà un acte qui atteste que ce quinquennat-là, c'est un signal fort pour ce deuxième quinquennat. Donc je pense que le quinquennat qui commence ne sera pas le même que le quinquennat précédent.
Merci. Le président a lui-même identifié les défis qui l'attendent au cours de son nouveau mandat. Avant de poursuivre les discussions, si vous me permettez, je vous propose d'écouter le premier extrait du discours de Faustin Alkantouadira lors de son investiture le 30 mars dernier.
Mes chers compatriotes, les atrocités et les humiliations subies pendant plusieurs années de conflits fratricides doivent nous inciter à nous fixer des lignes rouges communes. La ligne rouge qui me paraît la plus importante est l'impunité zéro pour tous les auteurs de crimes et délits. Sans ces lignes rouges, nous risquons de retomber dans les pièges du passé et la paix, la sécurité et la prospérité recherchées ne seront jamais trouvées. C'est pourquoi la lutte contre l'impunité sera la colonne vertébrale de mon nouveau quinquennat. Je réaffirme mon engagement à continuer à œuvrer pour une justice indépendante, équitable, véritable garantie pour tous les citoyens, quel que soit leur statut. À cet effet, j'engagerai le gouvernement à mener une réforme profonde de la justice afin de régler le problème de la lourdeur des procédures qui assure une impunité de fait aux auteurs des crimes de sang et des crimes économiques. Nous ne laisserons plus certains politiciens en mal de légitimité qui privilégient leurs intérêts personnels sur l'intérêt général, s'attaquer impunément aux institutions de la République et maintenir le peuple dans des souffrances indicibles sous divers prétextes. Je dois rappeler que le glas de l'impunité systématique des bourreaux du peuple centrafricain a sonné. Oui, nous avons l'obligation de rendre justice à toutes les victimes des crimes perpétrés dans le cadre des conflits armés qui ont endeuillé notre pays.
Voilà, c'était donc le chef de l'État, Faustin Alkantouadira, dans le débat politique de Radio Ndeke Luka. Nous allons avec vous autour de cette table débattre les points soulignés dans ce discours du président de la République, Monsieur Akoloza. Monsieur Touadira a évoqué d'abord la lutte contre l'impunité qui constitue la ligne rouge pour son mandat, son second mandat d'ailleurs. Est-ce que le président veut corriger les erreurs du passé de son premier mandat?
Vous voulez parler de quelle erreur? Parce que je vous disais ici que le président n'était pas dans toutes les conditions pour mettre le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne la lutte contre l'impunité et la corruption. Mais je vous avoue, je vous informe que cette question de lutte contre l'impunité est un processus. Parce qu'il s'agit de la justice. Vous ne savez pas les dossiers qui sont en cours devant les cours et tribunaux. Vous avez suivi le procureur de la République depuis hier soir jusqu'à ce matin sur la radio nationale, mais il a annoncé que ceux qui estiment que c'est une infraction au droit de liberté d'aller et de venir, qu'on les empêche d'aller, mais c'est par précaution parce que les dossiers qui sont pendants devant les tribunaux, il y a un fort soupçon contre certaines personnalités qui aujourd'hui bénéficient d'une immunité parlementaire. C'est pour cela que le gouvernement, dans le cadre de cette mesure d'état d'urgence, est en train, d'abord l'état d'urgence, c'est une infraction légale à la question de liberté. Une infraction légale à la question de liberté. Parce que c'est pour un temps donné. Et donc, le chef d'État, en annonçant cette rupture, cette lutte contre l'impunité, il a dit, en termes clairs, que c'est la colonne vertébrale de son deuxième quinquennat, la lutte contre l'impunité et la lutte contre la corruption, la liberté de la justice. Parce que vous savez, en politique, la première des choses, ou les premières des choses, c'est d'avoir d'abord une bonne intention. Ce que le président de la République est en train de faire manifester, avoir une bonne intention, avoir de bonne volonté, et maintenant s'entourer des femmes et des hommes compétents et capables de l'aider dans ce combat. Parce qu'il n'appartient pas seulement au président de la République, mais c'est une question nationale. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je vous avoue que vous allez voir les têtes des hommes et des femmes qui vont composer le futur gouvernement. Je crois que le chef d'État est disposé à véritablement mettre en œuvre cette question de rupture.
Voilà, question de rupture, la lutte contre l'impunité. Et puis nous sommes aujourd'hui à la ligne rouge hein, pour le second quinquennat du président de la République. Monsieur Gazambiti, quel commentaire faites-vous de ce premier extrait du discours du président qu'on a diffusé ?
Mais tout d'abord, je voudrais notifier que je ne connais pas un pays où lors d'une investiture présidentielle, un président fasse un mauvais discours qui déplaît. Donc, le discours du président de la République est un discours, pour ma part, dans lequel tout Centrafricain s'est retrouvé. Donc, ça, c'est un. Mais ça, ce sont des paroles. Maintenant, les paroles doivent passer à des actes. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette lutte contre l'impunité, est-ce que je suis d'accord avec ? Mais à 1000%, c'est ce que tout Centrafricain veut. Maintenant, vous avez dit, est-ce que le président de la République cherche à corriger des erreurs du passé ? Mais j'en suis convaincu. J'ai écouté aujourd'hui mon co-débatteur Akolosa qui vous a répondu en disant « De quelles erreurs voulez-vous parler ?» Je vais être très franc. Le président de la République, pendant les 5 dernières années, a fait des bonnes choses et beaucoup d'erreurs. Les leaders de l'opposition que nous sommes ont fait des bonnes choses et beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas un homme qui ne fait pas d'erreurs. Donc à partir du moment où le président de la République annonce qu'il y a une lutte contre l'impunité, zéro, donc ça veut dire qu'il y a eu des erreurs dans le passé qu'il veut corriger. Maintenant, pour moi, la proposition que je fais, c'est que pour que cette lutte soit effective, il faut commencer à frapper à la tête. Parce que le bas peuple regarde. Cette lutte contre l'impunité ne doit pas se passer dans les quartiers d'abord. Elle doit commencer au niveau de la gestion des affaires publiques. À partir du moment où on voit que le père de la nation frappe dans sa propre maison, alors là, on peut être convaincu et avoir confiance en disant « Ah, si lui, le président de la République, frappe autour de lui, ses propres collaborateurs, parce qu'il y en a hein, qui ont fait des dégâts au niveau de, qui sont restés impunis, alors ça veut dire que moi, qui suis le chauffeur de taxi-moto, moi, qui suis le simple cadre d'un parti d'opposition, si je fais quelque chose, je vais être frappé, parce que il est resté impartial. Ça, c'est un. Maintenant, le dernier point que je veux dire, je rejoins M. Akolosa en disant c'est l'équipe qui va être constituée autour du président de la République qui va pouvoir rendre cette parole
un acte.
À l'acte, et pas seulement un acte vérifiable et un acte louable. Ça, c'est l'équipe. Donc, il faudrait que le président de la République s'entoure des hommes et des femmes qu'il faut et qu'il les mette à la place qu'il faut. Et si ces hommes et ces femmes qu'il faut à la place qu'il faut, le moment où elles commettent des crimes qui ne doivent pas rester impunis, sont punis, alors là, on pourra dire que oui, effectivement, il est passé de la parole à l'acte, ce que je pense qu'autour de cette table, tout le monde souhaite, parce que, comme je le disais, c'est dans l'intérêt de tout Centrafricain que le président de la République réussisse son second mandat.
Voilà. Monsieur Aristide Reboas, l'impunité zéro pour tous les auteurs des crimes et délits, n'est-ce pas que le temps fort est désormais lancé par le pouvoir ?
Armando, vous savez, il y a le discours, mais il y a l'esprit du discours. Moi, à titre personnel, je vais m'apesantir plus sur l'esprit du discours. Le président Touadéra avait parlé de l'impunité zéro. Il a dit qu'il n'y avait pas eu ça. Il avait commencé par l'impunité zéro. J'étais le premier à l'appeler pour le féliciter du fait qu'il n'a pas voulu qu'aucun groupe armé rentre dans le gouvernement au début. Mais il avait succombé à l'injonction, aux injonctions de la communauté internationale et aussi de certains partis d'opposition. Ceci étant, la lutte contre la corruption, par exemple, commence déjà de la manière de désigner les cadres capable, avec ce que je vous ai expliqué, l'aptitude intellectuelle, morale, etc. Mais la corruption en République centrafricaine, si vous lisez le titre de la page 47 de mon premier livre, j'ai dit que c'est une réalité économique en République centrafricaine, et même en Afrique en général, mais surtout en République centrafricaine. Mais les moyens de lutte, effectivement, ne sont pas à la hauteur. Ça fait 30 ans qu'aucun criminel économique est parti en prison. Ça, je ne peux pas limiter à la hauteur du mandat de Touadéra. J'ai été le patron de la sûreté à l'époque du régime de Bozé. Il n'y avait pas aussi d'exception. Il faudrait reconnaître. Et même bien avant lui, pendant le régime de Patassé, où il y avait eu les deux premiers ministres qui sont aujourd'hui leaders politiques, il y a eu aussi des cas de corruption et que jamais il y a eu des luttes sévères pour que, depuis Bokassa, aucun criminel économique n'est parti en prison. Ça, c'est une réalité. Maintenant, s'agissant de l'exécution de programme, je remercie M. Gazambeti qui avait aussi reconnu la part d'erreur de l'opposition et la part de réussite de l'opposition, la part de réussite du gouvernement et aussi ses marges d'erreur. Tout cela, ça nous amène à une forme d'unité nationale. La cohésion est nécessaire. La cohésion est vraiment nécessaire et au passage, je remercie Maître Akolosa pour la garantie de ce du rôle que la plateforme jouera pour d'abord créer une cohésion interne au parti avant d'amorcer une cohésion générale. Pendant qu'on y est, il y a des affaires en cours, c'est vrai, pour concernant l'interdiction des uns et des autres de voyager, etc. J'ai suivi aussi le procureur. Mais entre-temps, pour les dossiers judiciaires en droit, il y a trois principes qu'il faut observer. Il y a le droit de la défense, principe de contradiction et la présomption d'innocence. Et donc, à titre personnel, que les leaders politiques, quand ils veulent parler, qu'ils se remettent à leurs conseils, leurs avocats, et que le gouvernement laisse la place au procureur de s'exprimer sur cette question. Maintenant, si vous voulez me...
Et ça, vous voulez parler de l'indépendance de la justice?
Oui, oui. Dans là, ce nouveau... je vois, là, tout simplement...
Mais est-ce qu'il y a une cohérence dans ce nouveau?
Oui,
puisque si les autorités prennent le devant avant que le procureur n'intervienne après, est-ce qu'il y a une... vous ne voyez pas une nuance dans ce nouveau?
Non, il y a le temps politique, le temps médiatique et le temps judiciaire. Maître Akolosa a dit qu'il y a beaucoup de dossiers pendants. La réforme de justice doit d'abord prendre en compte la dureté et la pénibilité des travaux des magistrats. Ils ne sont pas nombreux, ils sont mal payés, mal équipés. Il faudrait aussi penser à ça. Il y a des avocats, même pour un dossier, il faut qu'ils courent derrière le magistrat qui marque son indisponibilité, etc. Bon, il y a tout ça. Mais entre-temps, les gages de réussite dans tout ça, c'est d'abord la sécurité. Aussi riche, pauvre, opposition, au pouvoir en place, nous aspirons tous à la sécurité. Et c'est surtout sur la sécurité qu'il faut avancer en tirant des leçons du passé. Voilà. Et là, en fait, je conclue
quelques secondes.
Oui, quelques secondes. Je conclue pour cette... Vous savez, j'applaudis la reconquête du territoire, par exemple, qui se passe. Effectivement, il y a eu deux fois des interprétations à tort et à travail, deux fois juste ou par approximation. Mais... ça, c'est une bonne nouvelle pour permettre que, si le président parle, que ça soit une politique qui devrait être applicable seulement à Bangui, mais aussi dans les arrière-pays et même au-delà. Et donc, pour ça, il faudrait se donner les moyens nécessaires.
Les moyens qu'il faut.
J'y reviendrai.
Merci. Monsieur Christian Gazambeti,
c'est toujours sur cette
l'indépendance
question.
De la justice.
L'indépendance de la justice et notamment également l'impunité. Monsieur Reboise a parlé de la sécurité, ce qui est un point très important de ce second quinquennat. Vous savez, ça fait des décennies que le peuple centrafricain a pris l'habitude de voir ses bourreaux jamais aller devant la justice et parfois élevés dans des positions de dignité. Il est temps que cela cesse. Je veux parler notamment aujourd'hui des groupes armés. Nous avons eu en janvier la démocratie qui a été attaquée, violentée, violée. Ça ne doit pas rester impuni. Nous avons eu une rébellion qui a voulu renverser les institutions. Ce que je condamne avec la dernière énergie. Ça ne doit pas rester impuni. Et nous voulons voir, aujourd'hui, les Centrafricains, c'est vrai, M. Reboise a parlé de beaucoup, beaucoup de crimes économiques qui ont été commis il y a plus de 30 ans. Là, aujourd'hui, nous parlons des crimes contre l'homme, contre l'humanité aujourd'hui. Nous laissons ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Nous voulons que cela soit traité. Il faut que le président de la République aujourd'hui fasse regagner confiance au peuple centrafricain en punissant toute personne qui prend les armes pour venir renverser les institutions. Je suis opposant. J'ai milité pour que le président de l'URCA soit président de la République. Ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, le président de la République est M. Foster Archange Touadéra. C'est quoi mon intérêt ? Mon intérêt est que le pays soit dans la paix et dans la sécurité. Il n'appartient pas à des centrafricains ou des étrangers de venir prendre les armes pour renverser des institutions démocratiquement élues. Et surtout, ensuite, de rester impuni. Il faut que cela cesse. Donc, au niveau de l'impunité, pour moi, il va falloir punir toute entité armée qui n'est pas conventionnelle. Maintenant, aussi, l'indépendance de la justice. Pour l'indépendance de la justice, pour moi, personnellement, c'est un carré de ce quinquennat qui doit être vraiment respecté. Et comment on le respecte ? Mais je crois qu'aujourd'hui, Maître Akolosa, je loue qu'il y a un avocat de renom, qu'il y a un avocat de renom dans la plateforme Béoko, parce qu'il va falloir créer un comité de suivi par rapport à ces différents dossiers dont on parle. Parce qu'on parle souvent de dossiers, mais après, c'est des dossiers qui rentrent dans des tiroirs ou qui finissent à la corbeille. Ouais. Non, il faut qu'il y ait un suivi. Même si ça prend 6 mois, 1 an, 4 ans, il faut que la personne, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, mais qui a décidé d'aller contre les institutions, qui a décidé d'enfreindre la loi, soit punie. Et ça, il ne faudrait pas que le pouvoir puisse jouir d'une certaine influence pour pouvoir influencer sur les magistrats. Non, la République, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et c'est ce qu'on attend.
Voilà, c'est ce qu'on attend. Mais les Centrafricains, en nous écoutant autour de cette table, se posent cette question de dire, mais pourquoi aujourd'hui, quand on parle des crimes et délits, hein, la lutte contre tout cela, comme l'a dit le président de la République, quand on parle de crimes, on voit seulement ceux qui tiennent les armes, mais il y a aussi des criminels à col blanc qui ne sont jamais inquiétés. Est-ce que ceux-là aussi, monsieur Thierry Akolosa, seront inquiétés dans le discours, comme a dit le président de la République?
Vous savez, j'ai dit il y a quelques jours sur une station de la place que la République centrafricaine revient de très loin. Notre pays est revenu de très loin et les défis qui s'offrent aujourd'hui au président de la République sont très énormes. Parlons des dossiers pendants devant les cours et tribunaux.
Vous voulez répondre à ma question de tout à l'heure ?
Oui, je vais répondre à votre question.
D'accord, on gagne du temps.
Voilà. Donc, il faudrait bien que je clarifie certaines choses.
Allez-y.
Voilà. Donc, les dossiers pendants, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'ingérence politique. Ça, je préfère le dire en toute honnêteté, beaucoup d'ingérence politique dans les affaires judiciaires. C'est pour cela que je lance cet appel au président de la République, parce que c'est lui, le premier magistrat, qu'il faut donner le temps. Il faut donner le temps et punir, là, ce n'est pas simplement les criminels en col blanc, même les magistrats, il faut qu'ils soient sanctionnés. J'appartiens à cette famille-là et je le dis en toute liberté. Je suis avocat avec l'expérience que j'ai. Il y a beaucoup d'ingérence politique dans des dossiers judiciaires. Et les magistrats, surtout du parquet, sont obligés de se mettre debout et de se tenir au garde-boue. Ce qui ne devait pas exister pour permettre à ce que cette question d'indépendance de la justice ne soit pas un vain mot. Ouais. Maintenant,
oui, quelques secondes.
Oui, les criminels en col blanc ne sont pas sanctionnés. C'est vrai, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais quand même, il y a eu des criminels, des petits poissons qui sont sanctionnés. Mais je voudrais que les gros poissons aussi soient sanctionnés.
Et je suis d'accord. Et ces petits poissons, c'est bon, les petits poissons des...
Non, les fonctionnaires qui détournent. Voilà. Il y a le cas, par exemple, au ministère de la Santé.
Les petits taxis-motos, les petits voleurs. Hein. Bon, et tout ça, et les gens veulent voir ceux qui sont aux affaires et qui commettent ces crimes, comme on dit, des crimes économiques, n'est-ce pas, M. Reboise?
C'est le souhait de tout le monde et je pense que le chef d'État est dans cette disposition.
Voilà, nous allons, une fois de plus, si ça vous va bien, écouter l'extrait du discours du président de la République, Foster Archange Touadéra, parle d'amélioration du climat des affaires en République centrafricaine.
Cette transformation devrait s'articuler autour de 3 grands axes visant à œuvrer pour une société plus inclusive, une économie plus ouverte et de meilleures capacités pour nos populations. Le premier axe sera d'œuvrer pour une société plus inclusive en améliorant les relations entre les individus et les relations entre les individus et nos institutions. Cela nécessite l'amélioration de la sécurité et de la protection de nos populations, la promotion des droits fondamentaux, des libertés individuelles et de la tolérance sociale, la bonne gouvernance et le fonctionnement effectif et sans corruption des gouvernements. la construction d'un capital social positif permettant la solidité des relations interpersonnelles et sociales, la confiance institutionnelle, l'établissement de normes sociales et la participation civique des citoyens. Le deuxième axe sera de construire une économie plus ouverte à la concurrence, qui encourage l'innovation et l'investissement, favorise l'activité économique et le commerce et facilite la croissance inclusive. Cela nécessite un meilleur climat d'investissement en protégeant les investisseurs et en rendant les investissements plus disponibles. Étendre et renforcer les réglementations permettant aux entreprises de se créer, d'être compétitives et de se développer.
Voilà, je prends rapidement la toute dernière phrase. Hein, permettre aux entreprises de se créer, juste pour parler d'amélioration du climat des affaires en République centrafricaine. Vous pensez aujourd'hui, M. Reboas, que les affaires en République centrafricaine marchent normalement?
À titre personnel, j'ai essayé le monde des affaires. J'ai essayé le monde des affaires parce que quand j'ai terminé ma mission à l'Union africaine en tant que conseiller aux droits de l'homme, je me suis engagé dans la politique et quand je suis arrivé, je suis fonctionnaire cadre du ministère du Plan et de la Coopération. Donc j'ai décidé d'essayer le monde des affaires. Mais je pense que c'est difficile pour les centrafricains de faire des affaires. L'économie centrafricaine est tenue à plus de 90% par les non-centrafricains. Et c'est inquiétant. Et quand tu fais des affaires en tant que centrafricain, c'est difficile. Je ne parlerai pas du député qui m'avait vendu de faux l'or, 5 kilos, l'affaire, j'ai adressé une demande pour que son immunité soit levée, je vais au tribunal, on m'apprend qu'il y a 200 dossiers hein, contre lui, et pourtant il est resté député jusqu'à fin.
C'est un gros poisson.
Voilà. Lui, là, je pense que c'est une baleine. Et franchement, à titre personnel, je voudrais remercier Maître Akolouza. Vous savez, quel que soit le rang que nous occupons en tant que ministre, en tant que premier ministre, en tant que conseiller du président, on est tous le même acteur qui sert le conseil présidentiel. Vous voyez? Mais il y a deux catégories de conseillers. La première catégorie est ceux-là, c'est de ceux qui font la louange toute la journée, qui ne disent jamais au président qu'il a tort ou il a raison. Et c'est quand le président tombe ou il est parti qu'à ce moment-là, les gens commencent à ouvrir pour dire « Oui, il n'écoute pas les conseils. » Et pourtant, tu vois des grandes personnalités arriver devant le président en train de gratter les cheveux. J'ai vu ça de près. Mais le meilleur conseiller est celui qui transmet la vertu de la vérité, quel que soit le prix que cela détient. Et Maître Akolouza, je prie pour que le président vous donne une responsabilité et que je serai là pour vous rappeler ce moment-là. Non, c'est important.
Vous luttez pour la cause de
voilà.
Maître.
C'est un plaidoyer. Et donc, un avocat aussi a besoin d'un avocat. Vous voyez? Et donc, c'est quand même important de dire que c'est un échantillon de discours qui mérite d'être apprécié et que ça sert. Vous voyez? Maintenant, pour le climat des affaires en tant que tel, moi, j'ai amené dans ce pays des milliardaires. Au bout de 2 jours, il y en a qui sont venus, au moins 7 milliardaires, pour venir voir. Mais j'ai amené d'autres personnes aussi. Quand ils arrivent dans un bureau, le ministre leur demande de l'argent. La corruption, encore. Vous voyez, donc il faudrait faire un effort. La personne qui arrive deux fois, même pour faire des affaires, il va se déguiser pour venir en tant que journaliste. Juste pour voir le climat. Vous voyez, quand tu arrives par exemple pour le diamant, le militaire que tu trouves te propose le diamant. Le député te propose le diamant. Le ministre te propose le diamant. Et à un moment donné, il contourne même le circuit officiel. Allez voir, hein. J'ai fait
ma
coopérative.
Ça, c'est au déclinement du trésor public.
Oui, j'ai fait la coopérative minière et j'ai amené 1 milliard à l'État central, 1 milliard d'investissement. J'ai payé mes taxes régulièrement, etc. Mais moi, j'ai été approché par certains fonctionnaires qui voudraient bien qu'on passe dans les mailles du filet. Vous voyez? Et donc ça, ce cas-là, c'est quand même important de traiter. Pourquoi? Parce que si on régule bien le circuit, par exemple, minier pour le commerce, ça va aussi éviter l'insécurité. Parce que là, qu'est-ce qui se passe quand sur le théâtre de conflit? Dans tous les théâtres de conflit, les gens n'occupent pas les villes par hasard. Bria, tu trouves de l'or. Bambari, tu trouves de l'or. Le diamant, etc. C'est là où tous les criminels, il y a des gens qui peuvent aller là-bas pour provoquer la guerre et puis que créer une situation de non-contrôle de l'État et favoriser la corruption. Vous voyez? Et donc, il faudrait briser cette chaîne de corruption. Il faudrait redonner confiance. Bon, le président parlait de la création d'un, peut-être d'un fonds public pour aider surtout les entrepreneurs centrafricains. C'est important.
Hein, voilà, merci beaucoup. Ça vous va bien. On va revenir avec vous. Monsieur Thierry Akolosa, le président parlait d'une amélioration de relations entre les individus eux-mêmes et les institutions de la République. Quelle lecture faites-vous du propos du président sur ce point de climat des affaires en République centrafricaine?
Bien, je pense qu'il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, même aujourd'hui, il y a des Centrafricains qui ne croient pas encore en l'avenir de ce pays. Et je crois que le président de la République, en étant conscient de cette situation, a lancé cette idée de redonner confiance entre les Centrafricains et redonner confiance entre les Centrafricains et leurs institutions. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, le climat des affaires. Mais l'insécurité, ce n'est pas seulement le bruit des armes, le bruit des bottes. Lorsque le bruit des bottes et des armes vont cesser, mais il faudrait que ces criminels en cravate arrêtent aussi. Parce que les affairistes ne peuvent pas venir chez nous parce que, premièrement, le climat sécuritaire n'est pas propice. Et deuxièmement, les tracasseries administratives. Pas seulement la lenteur, mais c'est ce que M. Reboise a développé. Moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes activités professionnelles, à gérer un dossier concernant une entreprise qui s'est créée. Mais il y a eu beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici, parce qu'il s'agit d'un dossier judiciaire. Je dis quand même que le chef d'État est conscient de cette situation-là, parce qu'être chef d'État, a dit, c'est la première personne qui est mieux informée que tous. Maintenant, il faut qu'il y ait une révolution, pas une révolution
militaire,
comment, militaire ou violente, mais une révolution consciente de tous les Centrafricains. Parce que c'est notre pays. Et en passant, je félicite Christian Gazambeti. Vous voyez, il est de l'opposition. Depuis la crise qu'a connue notre pays, le code 2020, l'opposition n'a pas condamné la CPC, n'a pas condamné la prise du pouvoir par la force. Il vient de le déclarer aujourd'hui. C'est un jeune Centrafricain qui a l'amour de son pays. Parce que la stabilité des institutions est la stabilité de nous tous. Si les institutions sont ébranlées, je pense que chacun dans son domaine d'activité ne peut rien faire.
Mais je reste avec vous pour qu'on puisse vraiment toucher du doigt la réalité dans les entreprises, oui, dans les activités. Vous voulez évoquer quelques situations, mais vous n'avez pas pu toucher. Qu'est-ce qui se fait concrètement lorsqu'on veut créer des entreprises ou bien des entrepreneurs arrivent de l'extérieur, ils sont bloqués? C'est quoi le vrai problème?
C'est la corruption. Hein. Vous voyez, quand une entreprise arrive, cette entreprise-là peut se diriger vers un notaire pour la création des documents de base. Maintenant, au niveau du guichet unique, vous arrivez, tous les services sont là. Mais maintenant, surtout dans le domaine des diamants et l'or, et le dossier, je voulais en parler, c'est de ça. Toutes les autres personnalités veulent s'intéresser à cet homme d'affaires-là. Il arrive, j'ai besoin de temps, je vais
vous avant créer, de signer un document, il faut
avant de signer un document ou bien avant d'avoir l'agrément, bon, je suis très proche du chef de l'État, voilà. Donne-moi telle enveloppe, je vais crier pour que le chef d'État te reçoive. Moi, je dis aussi, hein, en toute honnêteté, il y a des hommes d'affaires que le chef d'État n'a pas besoin de recevoir. Pourquoi?
Oui.
Pourquoi? Le chef d'État a beaucoup à faire. Et ce sont ceux-là qui gravitent autour, qui disent, non, mais monsieur le président, oui, tel-là est venu dans tel domaine, il faut le recevoir.
Pour et il est bon, tout et tout, voilà. On fait son éloge.
Ce n'est pas bon. Il faut donner aujourd'hui la possibilité aux entreprises de se créer dans des bonnes conditions pour aider. Vous voyez, chez nous, tout le monde, c'est la fonction publique.
Monsieur Gazambeti, ça c'est pour les entrepreneurs, les grandes entreprises, mais localement, il faudrait que les Centrafricains, comme a dit Monsieur Robat tout à l'heure, doivent aussi émerger dans ce domaine, mais qui sont bloqués avec des taxes, des impôts exorbitants, qui les pénalisent à évoluer. Est-ce que dans ce contexte, le pouvoir peut aussi regarder cet aspect-là pour vraiment améliorer le climat des affaires, comme l'a souligné le président de la République?
Armando, je vais vous informer également à mes co-débatteurs aussi que je suis aussi moi-même un auto-entrepreneur. Je dirige un cabinet de conseil en communication et en affaires. Et voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on fait de l'opposition qu'il faut seulement tout critiquer et ne pas reconnaître lorsque la personne à laquelle vous vous opposez pour sa politique ne fait pas quelque chose de bien. En 2000, En 2014, j'ai amené ici en Centrafrique un dossier pour ouvrir une taillerie de diamants. À l'époque de la transition, l'autorité qui était à la tête du département des mines a réclamé d'avoir sa part. Ce n'est pas dans mes valeurs. Je n'étais pas seul, j'étais avec des partenaires étrangers. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ces partenaires, nous mettons un stop, nous n'allons rien payer. Ce dossier a été mis à la poubelle. En 2016, lors de l'élection du président de la République actuel.
Pour le premier mandat.
Pour le premier mandat, mes partenaires étrangers m'ont dit, est-ce qu'on devrait encore essayer? J'ai dit, bien sûr, il y a un nouveau président essayant. Armando, je vais peut-être vous surprendre. Je suis arrivé. Ce dossier a été relancé. Je n'avais encore jamais rencontré le président de la République, jamais rencontré le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, qui que ce soit. Ce dossier est passé en conseil des ministres, du conseil des ministres, et allé à l'Assemblée nationale, en commission des mines, et ensuite il est revenu au conseil des ministres, il a été validé, nous avons eu l'agrément d'une taillerie de diamants. Ça, ce n'est pas parce que je suis un opposant à la politique du président Touadéra que je ne peux pas reconnaître ça. Donc, je dis que je n'ai rien payé pour ce dossier, alors que c'est un dossier où on demandait de payer des centaines de millions en corruption. Ça, c'est un frein à l'entrepreneuriat national. Pour que ce que le président de la République a dit afin d'améliorer le climat des affaires en Centrafrique, pour que cela marche, pour moi, il faut impulser une politique de promotion de l'entrepreneuriat national. C'est-à-dire pousser les entrepreneurs qui sont dans l'informel à rentrer dans le formel. Et encore une fois de plus, ça revient toujours à ce qu'on dit. Un bon général est un bon général parce qu'il a de bons lieutenants, de bons soldats. Il faut qu'à la tête du département de l'entrepreneuriat centrafricain, il y ait quelqu'un qui soit du métier. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qu'on prend parce qu'on a, signé un accord avec des groupes armés ou parce qu'il fait partie de sa famille ou fait politique ou bien biologique. Non, il faut que ce soit quelqu'un du métier. Quelqu'un donc, qui connaisse
à la place
le secteur privé et qui sache comment pouvoir impulser ce secteur privé. Donc pour moi, il faut d'abord impulser une politique de promotion du secteur privé. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, pour les entreprises étrangères, beaucoup d'entreprises étrangères et d'investisseurs étrangers, comme l'a dit M. Reboas, viennent et repartent. Pourquoi? Premièrement, situation sécuritaire.
Et deuxièmement, ça, c'est le socle du
développement. C'est le socle. Et deuxièmement, manque de justice sociale. La situation sécuritaire. Aujourd'hui, j'espère que dans les 100 premiers jours du président de la République, cette histoire de CPC, nous n'en écouterons plus parler. Parce que sans cela, les entreprises ne pourront pas venir dans ce pays. Il faut que les choses se disent clairement. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une justice sociale effective qui permette aux entreprises étrangères qui viennent en Centrafrique de se sentir sécurisées. De ne pas penser que demain, on va bloquer leurs fonds, bloquer leur matériel et les renvoyer. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de les escroquer. C'est ce qui s'est passé sous beaucoup de gouvernements. Et comme on l'a dit, sous le premier mandat, il y a eu des escrocs en col blanc qui ont fait des choses comme ça. Il faut que les entreprises se sentent en sécurité d'abord, physique, leur intégrité physique, et également au niveau social et économique, leurs biens et leur matériel doivent être protégés.
Sur la sécurité économique, parce que tous les mots que nous connaissons, qui gangrènent le pays, M. Reboas, se résument en sécurité et surtout en économie. Vous avez 1 minute 30 secondes, je vous en prie.
1 minute 30 secondes. Bon, je vais essayer de faire un peu vite. Je ne peux pas dissocier les deux, malheureusement, parce que c'est le climat de sécurité physique qui permet le climat aussi de sécurité économique. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais une chose est vraie. Je vais commencer déjà par le sentiment, par exemple, de la transparence de la justice qui est une garantie nécessaire. La transparence de la justice permet de faire fonctionner et vivre l'état de droit et la démocratie qui eux-mêmes sont garantis de paix et de sécurité, de la stabilité qui est gage, par exemple, de développement économique. Mais pour ça, il faudrait que je parle un peu de sécurité.
Et rapidement,
25
je vous en
secondes. Ouais. 25 secondes. Vous allez voir, M. Gazambiti a parlé de CPC, hein, le groupe armé, etc. Vous ne savez pas quels dégâts psychologiques ça pose, quelle image ça dégage sur le climat des affaires en République centrafricaine.
Tout à fait.
Mais pour ça, pour neutraliser par exemple le groupe armé, nous sommes dans une technique de guérilla. Le silence de foi est une arme fatale. Nous devons mettre en place une armée capable de surprendre les adversaires. Et pour cela, il faudrait éviter les cacophonies communicationnelles. Pourquoi ? Parce que il y a le secret du conseil de ministres, il y a le conseil de sécurité,
Mais il y a aussi ce qu'on appelle le secret de délibération de ces deux conseils. Mais quand vous sortez de conseil de ministre ou de conseil de sécurité, vous allez directement sur la page Facebook pour communiquer, pour dire que j'envoie 1000 personnes à Bambari. Mais ça permettra à l'UICPC qui est à Bambari de se déguiser en commerçant et de se soustraire à la répression. Et dès que vous allez, vous voyez, donc par maladresse, on peut aussi donner des informations à l'ennemi. Et donc vous arrivez, vous trouvez personne. Vous revenez, il ressort encore. Et donc c'est quand même important que la communication...
Ça et donc vous voulez dire que c'est ça qui fait que
oui,
mais les villes ont été reconquises par l'armée nationale, mais sans combat.
Je te dis que c'est comme ça. Et quand on sort d'un conseil de ministre au conseil de sécurité, moi-même j'ai pratiqué, vous verrez dans aucun pays, même dans le monde, en Afrique, on sort, on va sur une page Facebook gérée par... accéder par 2 milliards d'utilisations.
Et ça, c'est un problème, hein, monsieur Apollosa.
Pour moi, je vous parle en tant qu'expert en la matière. C'est important.
Donc, on parle ça du secret, aussi, de, non, secret professionnel, oui, à ce niveau.
Ça met aussi la vie, par exemple, de FACA. Moi, je suis rebelle. Vous dites que vous venez à 11h. Et souvent, ils donnent même l'heure. Mais moi, je peux me débrouiller pour mettre les embuscades, tuer les soldats, etc. C'est un problème sérieux. Et donc, il faudrait que les ministres, les députés, les proches du pouvoir, les autres, ceux-là, même les militants, il faut qu'ils savent garder le silence pour permettre à l'opération de bien fonctionner et surprendre l'adversaire parce qu'on est dans...
Voilà, ça c'est le secret professionnel. On y reviendra un jour si on aura le temps de revenir autour de ce plateau avec les mêmes invités, débattre cette question. C'est un autre angle sur le secret professionnel qui pilule hein, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et même les ennemis ont des informations avant ce que le gouvernement compte faire. Merci et c'est la fin de ce grand débat politique sur Radio Ndekeluka. Je rappelle que nous avions débattu des défis qui attendent le nouveau quinquennat du président réélu Faustin Archange Touadéra. Nous avions reçu monsieur Thierry Patrick Akolosa. Il est rapporteur général de la plateforme Beoko qui soutient les actions du gouvernement. Merci de participer à ce débat, monsieur.
C'est moi.
Aussi, merci à vous, monsieur Aristide Brignan Reboise, d'avoir pris part à ce rendez-vous.
Merci beaucoup.
Aussi à vous, Christian Gazambiti, vous êtes porte-parole de l'opposant Anne-Georges Deleguélé. Merci pour votre participation à ce débat politique.
Merci Armando et merci à tous les auditeurs de la radio Ndekeluka.
Voilà, au micro, Armando Nguendi, c'est bien moi. Et la technique était assurée par Alix Pounemati. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir.